Le journal vous est présenté par Margot Delpierre. Bonjour Margot.
Bonjour Chloé, bonjour à tous. L'ouverture de la procréation médicalement assistée à toutes les femmes fait partie du projet de loi de bioéthique. Il arrive aujourd'hui en deuxième lecture à l'Assemblée nationale, juste avant les vacances parlementaires. On vous résume le contenu de ce texte sensible qui peut faire évoluer la société.
5 secrétaires d'État sont reconduits et 6 nouveaux font leur entrée. Le gouvernement de Jean Castex est au complet. La liste des secrétaires d'État a été communiquée hier soir. La réaction à suivre de Sophie Cluzel, toujours en charge des personnes handicapées.
Interdiction de quitter le territoire français, interdiction de rencontrer d'anciens complices, voilà quelques-unes des mesures de la proposition de loi concernant les auteurs d'infractions terroristes. Le but, encadrer leur sortie de prison. Le texte doit être adopté aujourd'hui par les députés.
Une plainte pour crime contre l'humanité a été déposée au Brésil par des syndicats de personnel de santé. Ils dénoncent la gestion de la crise du coronavirus par le président Jair Bolsonaro.
À cause de la pandémie de Covid-19, les autopsies ont pris beaucoup de retard en Écosse. Les familles de victimes d'overdose sont dans l'attente. D'après des experts, les décès dus à la drogue s'accélèrent.
Ces funérailles auront lieu dans l'intimité. Olivia de Havilland est morte hier. L'actrice hollywoodienne, star d'Autant en emporte le vent, avait 104 ans.
Et elle s'était battue contre le célèbre studio Warner dans les années 40 pour être libérée de son contrat. On vous raconte à la fin de ce journal. L'ambiance s'annonce électrique à l'Assemblée nationale aujourd'hui. Les députés auront au moins 25 heures pour discuter du projet de loi de bioéthique. Le texte fait son retour en deuxième lecture aujourd'hui avec 2300 amendements pendant les vacances d'été. Un calendrier critiqué par ses opposants qui dénoncent un examen en catimini. Ce projet de loi comprend notamment une mesure phare, l'ouverture de la PMA à toutes les femmes, Daniel Messager.
Avec cette loi, la procréation médicalement assistée pourra s'ouvrir à toutes les femmes en couple avec une femme ou célibataire. Finit la notion d'infertilité qui, en théorie, justifiait un recours médical. De même pour la congélation des ovocytes, évolution sociétale puisque les femmes ont des enfants plus tard, mais l'horloge biologique, elle, reste figée. La loi prévoit d'ailleurs d'informer sur la fertilité. Autre grande avancée, l'accès aux origines. Les enfants nés de dons pourront avoir accès à leur majorité à des informations soit non identifiantes comme la couleur des yeux, soit l'identité même s'ils le souhaitent. Les donneurs de sperme devront accepter ces conditions. Reste qu'après le vote, la mise en pratique ne sera pas simple. Les banques de sperme seront-elles en capacité de répondre aux demandes? Aujourd'hui, le délai d'attente est déjà de 1 an. Même incertitude sur les demandes de conservation de vos sites. Selon la loi, seuls les établissements publics ou à but non lucratif devraient être autorisés à la pratiquer. Cette loi sera revue tous les 5 ans et non plus 7. Car la société évolue et de plus en plus vite.
Et l'ouverture de la PMA était une promesse d'Emmanuel Macron, le président dont le gouvernement vient enfin d'être complété avec la nomination de 11 secrétaires d'État. Cette liste était attendue depuis pratiquement 3 semaines. Elle est tombée hier soir. 6 secrétaires d'État sont nouveaux, comme le conseiller de l'Élysée Clément Beaune, désormais aux affaires européennes, ou la députée Bérangère Abba qui s'occupera de la biodiversité. Les 5 autres ont été reconduits. C'est le cas de Sophie Cluzel, en charge des personnes handicapées.
Une constitution d'un gouvernement, c'est toujours compliqué, c'est long, mais je pense que ça valait le coup d'attendre parce qu'on a eu une très belle séquence à l'Europe avec le président de la République. Et je pense que franchement, 5 jours qui ont monopolisé le président sur un sujet majeur, ça valait le coup d'attendre. C'est surtout une très grande joie de pouvoir reprendre complètement mon travail qui s'est à peine interrompu. 3 ans justement au service des personnes en situation de handicap. Je remercie vraiment Jean Castex, le président, de cette confiance parce que c'est vraiment ainsi qu'on va pouvoir continuer de travailler mais en même temps accélérer les réponses aux personnes en situation de handicap.
Le gouvernement annoncera dans la journée des mesures inspirées des propositions de la Convention citoyenne pour le climat. Les 150 citoyens avaient soumis 149 mesures dans l'objectif de réduire les émissions de gaz à effet de serre de la France. À ce sujet, Emmanuel Macron présidera dans la matinée un nouveau conseil de défense écologique. Hier, dans une interview à Ouest-France, le Premier ministre Jean Castex s'est posé en défenseur d'une écologie de terrain fondée sur le dialogue, en opposition selon lui à une écologie qu'il qualifie de moderne. moralisatrice, voire sectaire. Après le projet de loi de bioéthique dont on parlait au début de ce journal, voici un autre dossier à l'agenda de l'Assemblée nationale aujourd'hui. Les députés sont appelés à voter définitivement la proposition de loi instaurant des mesures de sûreté pour les auteurs d'infractions terroristes. Elles s'appliqueront aux détenus au moment de leur sortie de prison. Ils sont 150 dans ce cas à sortir d'ici 2022 et certains points dans cette proposition de loi font l'objet de critiques de la part de la gauche et des avocats, Florence Turme.
Les juges pourront imposer aux sortants de prison un certain nombre d'interdictions, quitter le territoire français, rencontrer leurs anciens complices, également des obligations, suivre une formation, pointer régulièrement au commissariat ou à la gendarmerie, ou encore la pose d'un bracelet électronique, mesure qui avait été retirée du texte initial pour ne pas risquer une inconstitutionnalité. Elle revient dans la proposition définitive défendue par Yaël Braun-Pivet, députée à LREM et présidente de la commission des lois.
Beaucoup de choses ont été discutées pendant ce projet de loi parce que on est vraiment à la frontière entre la mesure de sûreté et la peine. C'est la raison pour laquelle nous avions saisi le Conseil d'État pour avoir son avis à cet égard. Le bracelet en ce qu'il est un substitut à la détention est une peine, mais en ce qu'il permet de s'assurer qu'une personne respecte telle ou telle obligation, telle que interdiction de paraître, interdiction d'aller à l'étranger et à un point à alléger, reste une mesure de sûreté. C'est ce que le Conseil d'État, en tout cas dans son avis, n'avait pas relevé, que le fait de mettre le bracelet dans la proposition de loi faisait basculer la mesure de sûreté vers une peine.
Une mesure qui bénéficiait, comme l'ensemble du texte, du soutien du gouvernement, soutien confirmé par le nouveau garde des Sceaux Éric Dupond-Moretti, l'ancien défenseur d'Abdelkader Merah, le frère de l'auteur des meurtres terroristes de Toulouse et Montauban, a reconnu avoir évolué sur ces questions. Le Conseil national des barreaux dénonce en revanche une peine après la peine et le groupe PS a déjà annoncé qu'il comptait saisir le Conseil constitutionnel.
La maire de Nantes a salué hier soir le travail des enquêteurs, la rapidité de la police et de la justice. Une semaine après l'incendie de la cathédrale de sa ville, un bénévole du diocèse, âgé de 39 ans, a reconnu avoir mis le feu au bâtiment. Il est passé aux aveux et a été écroué samedi. Encore un peu plus à l'ouest, à Quiberon, dans le Morbihan, les plages et les parcs ferment toutes les nuits jusqu'au 15 août pour lutter contre la Covid-19. 19 cas ont été enregistrés dans la commune la semaine dernière, désormais considéré comme un foyer épidémique. La préfecture avait déjà ordonné la fermeture administrative d'un bar où certains jeunes testés positifs avaient fait la fête. Cette fois, la mairie a pris les devants, François Rosy.
La mairie qui a pris son arrêté hier en début d'après-midi, tous les parcs et toutes les plages de la commune seront désormais fermés entre 21h et 7h du matin. Le but, éviter les attroupements de jeunes à l'origine de la propagation du virus à Quiberon. Le premier adjoint au maire, Gilles Dacendo.
Notre souhait, c'est de protéger tous nos touristes. C'est surtout de passer un message fort vers une certaine population qui, malheureusement, ne prend pas les précautions nécessaires. Il faut à tout prix qu'on demande à nos jeunes plutôt se recentre en famille et voilà, évite des regroupements entre eux.
De son côté, la préfecture pointe également du doigt l'irresponsabilité d'une partie de la jeunesse. Le préfet du Morbihan, Patrice Faure, envisage lui aussi de prendre d'autres mesures.
Qui pourrait aller jusqu'à, comme dans la Mayenne, l'interdiction de rassemblement de plus de 10 personnes en public. Deuxièmement, de fermer les établissements dans lesquels on aurait détecté plusieurs cas de façon concomitante. Et enfin, éventuellement, j'espère ne pas en arriver là, mais s'il le faut, je le ferai, de fermer les bars à partir d'une heure, par exemple 19h.
Des mesures fortes qui pourraient être prises cette semaine en fonction des résultats des nombreux tests pratiqués depuis vendredi à Quiberon.
François Rosy de France Bleu Armorique.
France Culture 8h09, Margot Delpierre, les Caraïbes et l'Amérique latine forment la région du monde la plus touchée par la pandémie de Covid-19.
C'est là que les contaminations sont les plus nombreuses, plus de 4 340 000. Et parmi les pays concernés, le plus touché est le Brésil, où l'on déplore plus de 87 000 morts. Le président Jair Bolsonaro est pointé du doigt pour sa gestion de la crise sanitaire. Des syndicats du personnel de santé qui représentent plus d'un million de travailleurs ont déposé hier une plainte devant la Cour pénale internationale pour crimes contre l'humanité. Au Brésil, la correspondance de Jean-Mathieu Albertini.
Depuis le début de la pandémie, Jair Bolsonaro minimise le danger du virus et s'oppose aux différentes mesures de protection contre la Covid-19. Pour Marcio Monzan, membre de la coalition syndicale Unisaúde à l'origine de la plainte, pas de doute, le président brésilien a délibérément mis en danger les professionnels de santé ainsi que l'ensemble de la population.
Quand on parle de dénonciation de crimes contre l'humanité, il faut prouver qu'il existe une intentionnalité. Or, le gouvernement Bolsonaro a démontré par ses actions et ses omissions qu'il tente constamment et intentionnellement de créer des obstacles au combat contre le coronavirus au Brésil.
C'est la quatrième plainte pour crime contre l'humanité déposée à la Cour pénale internationale contre Jair Bolsonaro depuis le début de son mandat. Difficile d'imaginer une condamnation pour le moment, mais Marcio Monzan considère qu'il faut intensifier la pression contre le chef d'État brésilien.
Face à l'incapacité au niveau national de limiter le pouvoir de nuisance du président de la République dans la lutte contre le coronavirus, on pense que le meilleur chemin est d'aller devant la Cour pénale internationale.
Au Brésil, presque 88 000 personnes ont succombé au coronavirus et Jair Bolsonaro ne semble toujours pas prêt à changer de stratégie face à la pandémie.
Au Canada, les nouveaux cas détectés sont majoritairement des jeunes de moins de 39 ans. Les autorités sanitaires appellent cette catégorie de la population à ne pas se sentir invincible face à la Covid-19. Les personnes âgées ne sont pas les seules à risquer de graves problèmes en cas de contamination, assure l'administratrice en chef de la santé publique du pays. Un fléau différent s'abat sur l'Écosse, le trafic de drogue et ses conséquences mortelles. Les décès se multiplient, affirment les experts, même si les chiffres annuels des overdoses mortelles n'ont pas encore été publiés. Les autopsies ont pris du retard à cause de l'apparition du nouveau coronavirus. Explication de Maxence Peignet.
Il s'appelait Callum Jackson. C'était un farceur. Il avait 23 ans.
Le fils de Michelle Jackson est mort en décembre d'une possible overdose à Édimbourg. Mais 7 mois plus tard, elle attend toujours les résultats de son autopsie. Selon les associations, les autorités écossaises ont accumulé 1 an de retard sur les analyses toxicologiques, laissant 1 millier de familles dans l'attente.
Ils ne nous ont rien dit. Je pense qu'ils considèrent que ces personnes ont fait le choix de prendre de la drogue, donc ils ne voient pas ça comme une priorité.
Les services judiciaires affirment faire tout leur possible pour limiter les délais dans le contexte pandémique. Mais les chiffres annuels des overdoses mortelles ne pourront pas être publiés cet été. Pourtant, le dernier rapport faisait état de 1200 décès en 2018, un record en Écosse comparable aux États-Unis à population égale. Sharon Brand a vaincu son addiction à l'héroïne et a créé un groupe de soutien. Elle s'attend à ce que la tendance se poursuivent.
Je pense que cette année, il y aura 1500 morts et probablement près de 2000 l'an prochain. Le confinement a eu un effet très négatif. On a vu plusieurs décès ces derniers mois. Les jeunes ont été très affectés aussi. Il y a des enfants de tout juste 13 ans qui se sont mis à la MDMA et au crack.
21% des enfants écossais de 15 ans disent avoir déjà pris de la drogue.
Maxence Peignet. 60 villageois sont morts au Darfour dans l'ouest du Soudan la semaine dernière. 500 hommes armés ont mené un raid contre ces agriculteurs issus de tribus africaines. C'est l'incident le plus sanglant connu ces derniers jours dans la région, en proie à des violences depuis de longues années sur la question des terres et de l'eau. La Chine avait annoncé vendredi la fermeture du consulat américain à Chengdu. Elle en a pris possession ce matin. Une décision prise par Pékin en représailles à celle de l'administration Trump. Washington avait donné 3 jours aux Chinois pour évacuer leur consulat de Houston. Tout cela dans un contexte de tensions diplomatiques. Elle était inoubliable dans Autant en emporte le vent, connue aussi pour les aventures de Robin des Bois. Olivia de Havilland est morte hier à Paris où elle s'était installée. La star hollywoodienne avait 104 ans et au cours de sa carrière, l'actrice, 2 fois oscarisée, symbole d'un âge d'or du cinéma, n'avait pas hésité à défier le système écrasant des studios. Un épisode raconté par Loïc Piala.
Elle adorait jouer avec Errol Flynn, elle était même amoureuse de lui. Mais Olivia de Havilland a fini par se lasser des rôles de petite amie du héros comme Marianne dans Les Aventures de Robin des Bois, les seules qu'on lui proposait dans les années 30. And when my real guardian, King Richard, finds out about your being in love. Après Autant en emporte le vent, la grande sœur de John Fontaine a décidé d'attaquer Warner Bros. En justice. À l'époque, les acteurs étaient sous contrat avec les studios et sanctionnés quand ils refusaient des films. Elle a gagné et changé le système. Tous les acteurs d'Hollywood ont une dette envers elle, avait écrit Bette Davis.
And so for the second time, Olivia de Havilland walks up to this platform to get an Oscar.
Dans les années 40, elle a pu obtenir des rôles plus complexes qui lui ont valu 2 Oscars, à chacun son destin, puis L'Héritière, une adaptation d'Henry James.
Must come He must take me away. He must love me.
Catherine, you must take hold of yourself.
No, no, Morris must take hold of me. Morris will love me. For all those who didn't.
L'actrice née au Japon et élevée au Royaume-Uni a fini par quitter Hollywood pour s'installer en France. Elle y a reçu la Légion d'honneur et a eu droit à une standing ovation à la cérémonie des Césars 2011.
Loïc Piala, correspondant de France Culture à Los Angeles. Le temps en France aujourd'hui sera très ensoleillé, sauf en Bretagne et en Normandie avec un peu de pluie. Météo France prévoit jusqu'à 33 degrés dans le nord-est. Ce sera le cas à Strasbourg. 36 sur le centre et la moitié sud et jusqu'à 39 degrés à Albi, Chloé.
Merci Margot Delpierre.